Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et comme tous les soirs jusqu'à 20h, les grandes voix sont là autour de vous, Nathalie. Ce soir, Michel Cotta, Emmanuel Dutheil et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Bonsoir les grandes voix du vendredi.
Bonsoir Nathalie, bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. Ça y est, plus que quelques heures avant ce second tour des municipales. Il aura tardé, compte tenu évidemment de cette crise sanitaire. On y est tout presque, fébrilement ou pas, vous allez me dire ça dans quelques instants pour notamment la capitale, mais aussi un certain nombre de grandes villes où il y a encore des questions à se poser. Michel Cotta, là, les dernières heures, pour Anne Hidalgo, par exemple, si on regardait Paris, elles sont sereines ces dernières heures.
Pour Anne Hidalgo, sûrement, mais il y a des gens pour lesquels c'est
beaucoup moins,
c'est moins, c'est moins certain. En tout cas, hier soir, il y a eu un débat entre les trois dames de Paris, dans lequel il me semble que Rachida Dati a marqué le rythme et marqué le train, que Agnès Buzyn s'est un peu... c'est un peu laissé aller à quelques vindictes ou quelques vengeances contre Anne Hidalgo, mais qu'Anne Hidalgo a été en dessous d'elle-même. Alors, c'est quelqu'un qui est sûr, au fond, qui se dit « j'ai 44%, je m'assois sur les 44%, autant ne pas faire attention à ce que disent les autres ». Mais c'était un drôle de débat entre trois dames.
Avec une forme de platitude quand même, un certain nombre de moments. Frédéric Dabi, vous avez regardé aussi, vous avez enquêté aussi, et vous nous livrez là, à J-2, une dernière enquête d'opinion qui conforte.
Oui, c'est vrai que c'est la dernière enquête d'opinion IFOP fiduciaire pour le journal du dimanche qui donne... En continuité avec les enquêtes précédentes, Anne Hidalgo nettement en tête, 44%. Ce qui frappe, c'est qu'elle a une sociologie très homogène. Elle attrape tout, sauf chez les personnes âgées. Elle est majoritaire dans les arrondissements de gauche. C'est le plus important, puisque Paris, ce n'est pas une élection, c'est 17 élections. Mais comme le disait Michel, il y a une petite dynamique en faveur de Rachida Dati qui passe de 33 à 35%, qui progresse dans les segments traditionnels de la droite, les personnes âgées, les arrondissements de droite. Et au contraire, Agnès Buzyn, avec 18%, symboliquement, arrive à son score de premier tour. Et surtout, on a posé la question de la sûreté du choix. Ouais. Presque 3 électeurs de Buzyn sur 10 pourraient encore changer d'avis. Peut-être
pour
que...
en faveur de...
En tout cas, des électeurs de Buzyn qui pourraient aller soit chez Dati, soit chez Hidalgo, ça se partagera. Mmh. Mais en tout cas, elle est quand même sur un toboggan et ça marque la fin de cette campagne absolument cauchemardesque pour La République En Marche. Je rappellerai que notre premier sondage fait il y a 2 ans donnait une avance au premier tour de 4 points pour Benjamin Griveaux, 32 contre 28.
Ça, c'était avant.
C'était avant. Il y a deux ans.
Mais
ça fait un siècle.
Bon, avec évidemment, on va aller sur l'angle économique des choses, parce que bien sûr, Emmanuel Dutheil, il y a aussi cet enjeu-là très fort. Les municipales, ça marque aussi, enfin ce second tour, ça va marquer aussi un tournant. En tout cas, peut-être un nouveau...
C'est déterminant pour la relance économique, puisqu'on le sait très bien, hein, quand un maire va être élu quelques mois avant, il ne fait plus rien. Donc, beaucoup de gens du côté du bâtiment et ce genre de choses s'inquiétaient beaucoup d'un éventuel report au-delà de juin, puisque ça voulait dire que vraiment, on n'allait rien faire. Il y a ce premier point. Il y a le deuxième point. Alors, je pense qu'on en reparlera après d'un point de vue plus politique, mais c'est également très intéressant d'un point de vue économique. C'est si les Verts remportent énormément... de municipalités ou des villes en tout cas importantes, ça va aussi changer la donne parce que tous les programmes sont contre un meilleur immobilier, de nouvelles façons de construire, de sortir à la voiture.
Plus de pistes cyclables, etc.
Et tout ça, ça a un impact économique. Et je peux vous dire que du côté notamment du BTP, on regarde... On glose souvent sous le Nouveau Monde, et puis franchement, là, depuis quelques semaines, on se dit que le Nouveau Monde, il a quand même un sacré goût d'arrière-monde. Mais je peux vous dire que d'un point de vue municipal... Cette
mais bien
donne
sûr.
Se verra rien qu'au niveau de l'immobilier. Oui.
Ce sera la traduction
concrète. Il y a une action majeure aujourd'hui, c'est-à-dire une partie des Verts très extrémistes sur l'aéroport d'Orly, essayant de freiner le départ, le redépart de l'aéroport d'Orly. Ça veut dire quand même beaucoup de signes à donner aux différents patrons et aux différents hommes politiques.
Je rajouterai deux petits points. Ce que vous dites est très juste pour les villes, mais c'est encore plus vrai pour les communautés d'agglomération, les communautés de communes qui sont à l'arrêt complet depuis maintenant plusieurs mois. Et puis c'est vrai que ce saut dans l'inconnu, ce cauchemar économique, si les Verts gagnaient quelques villes, est minoritaire dans l'opinion, mais est très fort chez les électeurs de droite et chez les électeurs d'En Marche. Ce qui explique aussi dans de très nombreuses villes, Strasbourg, Lyon, des alliances qui étaient perçues comme contre nature, mais qui sont en fait des alliances contre les Verts.
C'est vert, parce que allons-y sur l'aspect politique des choses. Ils sont aux portes des grandes villes, on le dit, on le répète depuis des semaines. Si le compte n'y est pas dimanche, Alors qu'il y a eu les européennes, alors qu'on voit bien cette poussée.
Alors, et quand même, ouais, Nathalie, vous parlez des européennes, ce n'est pas anodin. Si la poussée des Verts se confirme, ce sera la première fois qu'une tendance issue des élections européennes est confirmée à une élection suivante. Ça n'avait jamais été le cas. La percée des Verts, déjà,
c'est
avec
pour ça que j'ai dit,
alors, en 2009,
ça peut encore
n'avait pas
ne pas arriver. Voilà, c'est...
Quand même, mais on, comme... voit, on va voilà. quand même... Il y a beaucoup de villes où ça se joue à rien. Ouais. Par exemple, Toulouse, ouais, par exemple, Lyon. Oui, mais quand même, la tendance, c'est quand même
la
que les
tendance,
Verts...
Mais l'histoire ne parle pas dans ce sens-là. C'est pour ça que je faisais référence aux Européennes.
Là où c'est étonnant, c'est pas des petits villages. Ils gagnent de grandes villes, parce que quand on voit la liste, donc Lyon, où il y a des chances, Besançon, Tours, Marseille, avec cette découverte complètement... Cette jeune femme qui était complètement inconnue, Rubirola,
en face de Vassal, Rubirola,
du printemps marseillais. Exactement. Donc vraiment avec de nouveaux visages,
pas du tout du...
de nouveaux visages et une liste impressionnante de conquêtes possibles contre lesquelles, mais ça je pense que ça posera aussi des problèmes politiques importants, contre lesquels donc l'Union, LR, la République en marche, LR, fera sans doute
on va y venir aussi dans
que,
un instant.
Le Parti Vert sera le seul, le, peut-être le premier parti d'opposition.
Alors on continue justement, on va regarder les LR, comment ils se sortent a priori de ces élections, dans un petit instant zoomer sur eux, et puis bien sûr les divisions, et puis tout ça nous amène à quoi, le remaniement, très certainement semaine prochaine, on va voir tout ça avec vous les grands dans un instant.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Michel Cotta, Emmanuel Duteil et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Alors on se projette, hein, bien sûr, les municipales, le second tour, c'est enfin dimanche, on y arrive. Et puis il y a l'après. Je voudrais quand même qu'on se dise un mot de ces alliances, La République En Marche, LR, Frédéric Dabi, Michel Cotta, parce que ces Républicains, on ne les a pas entendus vraiment pendant cette crise. Ils n'ont pas réussi à se démarquer, même s'ils ils gardent des villes, bien sûr.
Mais vous savez, ils avaient eu une victoire, ils avaient eu une victoire considérable. Aux dernières municipales, parce qu'ils avaient conquis 140 villes à la gauche. Donc, quand on a un tel courant, on ne peut que perdre à l'élection qui suit. Mais c'est vrai qu'on a vu à cette occasion que les Républicains n'avaient pas de leader. Christian Jacob fait ce qu'il peut, mais c'est pas un leader naturel. Barouin n'a pas dit un mot. Enfin, tous les grands... Bertrand a quand même un peu parlé, mais il est à la marge maintenant.
Valérie Pécresse, pareil.
Donc, au fond, c'est vrai que leur silence fait du bruit.
Bah, voilà, la formule est là.
Je pense qu'on peut être quasi sûr qu'au soir du second tour dans les villes de plus de 10 000 habitants, le parti dominant sera les Républicains. Pour autant, il pourrait y avoir le même phénomène qu'en 2001, où il y avait une poussée de droite très très forte, mais les défaites à Paris, Lyon et un degré moins Dijon avaient éclipsé les choses. Là, c'est vrai qu'il y aura sans doute une stabilité et beaucoup de mairies LR, mais si LR perd Toulouse, si elle perd Marseille, ça fera très très mauvais genre.
On fait un petit pas de côté, le Rassemblement National en mauvaise posture aussi pour ce second tour. Bien sûr, il y a eu sur le premier tour des acquis, 7 villes où des maires ont été réélus le 15 mars, mais... on est très loin des espérances.
Je dirais que comme un parti traditionnel, il a quasiment conservé tous ses sortants. Il y a encore un enjeu sur Marseille, sur le Luc et sur, je crois, Mantes-la-Ville. Mais c'est vrai
mais on
n'est
pas
vrai
sur des gros enjeux.
Le RN, d'abord, a présenté moins de listes qu'en 2014, ce qui est étonnant pour un parti qui veut exercer le pouvoir. Il a été fracassé dans sa sociologie par l'abstention. On sait que ce sont surtout les jeunes, les catégories populaires qui n'ont pas voté le 15 mars. Et ce sont des catégories qui sont au cœur du vote RN, et puis il n'y a qu'un enjeu pour eux,
c'est
ça serait Perpignan, qui est plutôt bien parti, ça reste indécis, c'est un duel.
Mais c'est ça, c'est un duel, et puis Perpignan, c'est Louis Alliot, qui a quand même, sur ses affiches, qui a plus le RN affiché.
Une stature particulière, qui s'est un peu
Qui a pris des distances, clairement.
Qui se cache de ses relations anciennes ou actuelles avec Marine Le Pen. Mais c'est vrai que les Républicains resteront sans doute avec une partie de ce qu'ils avaient conquis il y a...
Une grosse partie.
Voilà, mais...
mais ce n'est pas des villes emblématiques.
On ne peut pas dire... c'est pas des villes emblématiques. Et puis, en plus, on ne peut pas dire que c'est une campagne dans laquelle ils ont brillé. Même si la campagne a quand même, à mon avis, même si la période, à mon avis, a quand même favorisé pas mal de maires sortants, parce qu'ils ont très bien organisé le déconfinement ou les plages.
Ouais, alors, c'est ce que dit d'ailleurs beaucoup Marine Le Pen pour justifier effectivement ces mauvais résultats.
Le confort du maire sortant important jouera sans doute, bien sûr. Quand même à leur faveur, marginalement peut-être, mais il jouera.
Je recevrai justement Nicolas Bay dans quelques minutes, député européen, membre du Rassemblement National, à 19h20 pour être exact. Emmanuel Dutheil, sur le Rassemblement National, vous entendez ?
Non, je disais juste que malgré tout, s'ils emportent Perpignan, ce sera quand même une très grosse prise pour eux. C'est-à-dire que c'est un nouveau plafond de verre qui tombera, et à la rigueur, s'ils devaient même gagner que ça leur suffirait pour...
Seule ville de plus de 100 000 habitants.
Ils avaient gagné Toulon il y a très très longtemps, en 95. C'est vrai que comme pour La République En Marche, le vote aux élections municipales, cette élection est la pire pour le Rassemblement National. Le vote repose sur un triptyque bilan, projet, incarnation, et ce sont des dimensions sur lesquelles le RN est faible. Rien à voir avec le vote d'étiquette ou de marque que constitue le vote aux élections européennes où ils sont arrivés en tête.
Quelques maires ont gardé du RN, ont gardé leur ville.
Bien sûr,
parce que, vous rappelez, il y a quelques années, le Front National avait perdu immédiatement. Quasiment, les maires avaient été immédiatement éjectés.
Là, pas du tout. Dès le premier tour,
là, ils sont restés. Ils sont restés. Ils sont encore là. Donc,
alors. On
va compter avec eux.
Bah oui, bien sûr. Alors, de toute façon, on va regarder, parce qu'une fois qu'on a dit tout ça le 28 au soir, on regarde évidemment dans quel délai on fait le remaniement. Ça se prépare. On sait bien qu'il y a eu ce dîner en tête à tête, Édouard, Philippe, Emmanuel Macron, il y a une huitaine de jours maintenant. C'était le point qui parlait de ce dîner. On va peut-être y venir dans quelques instants. On se retrouve ensemble, les grandes voix, et puis bien sûr cette rentrée économique avec cette crise. Est-ce que le pire est passé ? Emmanuel Dutheil, vous avez peut-être des éléments de réponse, vous. À tout de suite, les grandes voix.
Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et les grandes voix, Michel Cotta, Emmanuel Dutheil et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Édouard Philippe est-il incontournable ? Quels sont les ministres fragilisés et ceux qui pourraient entrer au gouvernement ? Ce remaniement, il pointe le bout de son nez sans doute la semaine prochaine, peut-être début, peut-être fin de semaine. En tout cas, on y verra sans doute plus clair avec quelles indiscrétions, parce que les grandes voix, vous êtes informés, mais on entend un peu tout et son contraire quand même, Frédéric Dabi, depuis des semaines.
Donc on n'est pas informé sur les ministres exactement qui vont participer au gouvernement. Ça, non.
C'est toujours classique, c'est toujours des moments où ça bruisse. Je suis toujours frappé par le décalage avec le désintérêt relatif des Français et le fait que rarement un remaniement a créé un choc psychologique et une rupture d'opinion. C'est vrai qu'il y a quand même un choix assez important pour Emmanuel Macron, maintenir un Premier ministre populaire comme jamais et qui tient l'édifice macronien, c'est-à-dire en étant si fort dans les segments de droite, ou bien renverser la table et se lancer dans la présidentielle.
En fait, c'est ça. C'est évidemment, est-ce que Philippe est incontournable, oui ou non, et va-t-il l'être pour Emmanuel Macron ?
Et en plus, c'est l'équation particulière qui sortira de ces municipales quand même. À partir du moment où le Nouveau Monde parlera d'écologie, de construction verte, etc., mais où le principal parti d'opposition contre Macron sera les écologistes, ça va quand même poser quelques problèmes au gouvernement qui arrive, si c'est un nouveau gouvernement, ou Édouard Philippe s'il reste.
Ouais. Alors évidemment, il y a des ministres fragilisés, on pourrait les citer, on peut aussi éviter. Il y a des ministres fragilisés, et puis Emmanuel Dutheil, il y a aussi ce qui est à l'arrière, l'arrière-salle en quelque sorte, qui va aussi être remué.
Ouais, je déjeunais avec un ministre de premier plan, là, il y a de cela quelques jours, et très clairement, ce qui se dit au sein de l'exécutif, c'est qu'il y a eu une certaine faillite de l'administration dans certains ministères. Alors, souvent, on cite l'administration de la santé, qui n'a pas pu prévoir les masques et ce genre de choses. L'éducation nationale aussi est souvent citée parce que ça a été quand même très lourd de mettre en place le télétravail. Donc, ce sur quoi il travaille, selon ce ministre de premier plan, mais qui avait l'air d'être quand même plutôt au courant de ce qui était en train de se tramer, c'est de travailler sur 4-5 gros ministres qui seraient à la tête de très gros pôles. Donc, sûrement un pôle social. Alors, le nom de Gérald Darmanin revient souvent autour du pôle social, puisque on sortirait à ce moment-là peut-être Muriel Pénicaud, qui a un petit peu de mal dans les médias à faire passer les mesures, malgré un énorme boulot qui a pu être fait, notamment pendant la crise. On va sûrement renforcer d'une manière ou d'une autre le pôle Bercy. En tout cas, c'est ce dont ils rêvent à Bercy, parce qu'ils estiment que ceux qui ont les mieux travaillé pendant la crise, que ceux qui dirigent tout seuls. Et c'est vrai que c'est quand même encore l'administration de Bercy, ce qu'on appelle la direction du Trésor, qui objectivement a fait un boulot quand même assez massif. Et c'est vrai que c'est encore là où les plus beaux cerveaux de l'État sont sûrement présents. Et puis, il va falloir, par rapport à ce que disait très intelligemment Michel, il va falloir répondre à la question écologique. Donc, je crois qu'ils sont désespérément en train de chercher une personne qui puisse incarner.
Il y a un Pascal Canfin qui rôde, mais c'est pas assez.
Il est connu des Français.
C'est voilà. Frédéric Dabi, il est complètement connu des Français.
Bah oui, Français. Mais un ministère doit être incarné. Bah,
bien
c'est
sûr, mais alors il n'y a pas 100 000 possibilités. Non. Nicolas Hulot, c'est fait, Ségolène Royal,
c'est du argent. Mais j'ai beaucoup, depuis des années, j'ai toujours vu qu'à tous les remaniements et à toutes les formations de gouvernement, on dit on va faire quatre gros ministères. Voilà, quatre gros, mais on ne sera pas nombreux.
Un peu plus certain, c'est que pour les deux années qui viennent, ils ont conscience qu'il faut mettre une vraie équipe de combat.
Et du 15 de France. Voilà, oui, à l'époque, c'est vrai que c'est toujours des formules.
De combat, le pack de combat, etc. Bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, quand c'est vrai que les administrations et surtout la santé, bah d'ailleurs, on le disait hier avec le professeur marseillais qui a dit ça. C'est vrai que il y a des services qui ne marchent pas, qui sont les uns contre les autres, que l'intendance ne suit pas. Alors, est-ce que l'intendance suivra avec le prochain gouvernement?
Oui, peut-être deux choses pour un peu nuancer cette idée d'importance du remaniement. Clairement, les Français sont sur une logique de résultat, notamment sur les questions économiques, plus que sur une logique de casting. Les questions économiques, oui, mais par rapport aux crises passées, les questions environnementales n'ont pas été reléguées. C'est ce qui explique aussi la dynamique pour Europe Écologie Les Verts. Et de plus en plus, les Français ont été ont bien vu des dysfonctionnements de l'administration de l'État et attendent beaucoup. Et c'est un nouvel acte de décentralisation qui émerge, d'où la très forte importance à accorder aux élus locaux, aux présidents de région. Une autre question, report ou pas des élections régionales, c'est un élément crucial.
Évidemment. Alors, si on parle économie, c'est là où je me tourne encore vers vous, Emmanuel Dutheil, et où je prends dans ma voix cette phrase, le pire de la crise économique est probablement passé. C'est Christine Lagarde. Oui, c'est... Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui le dit
aujourd'hui. Oui, elle l'a dit ce matin. Alors, je pense qu'elle a en partie raison et quand même un petit peu tort. C'est-à-dire que je pense qu'on va prendre une image, si vous le voulez bien, qui, je trouve, résume assez bien la situation. Qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Un gigantesque tremblement de terre. Un tremblement de terre de grande importance, ça fait quoi ? Ça dévaste tout et on a des secousses plus ou moins vigoureuses derrière. C'est quoi ces secousses ? C'est tous les plans sociaux tous les jours, je ne vais pas vous faire la liste, mais c'est également une énorme incertitude. C'est-à-dire qu'on le suit tous les jours sur Europe 1, mais la situation de la crise sanitaire aux États-Unis est cataclysmique. C'est-à-dire qu'on est en train de reconfiner la Floride, interdit de la consommation d'alcool. Je crois que le New Jersey a également pris une décision de reconfiner. Et ça, c'est un soubresaut majeur. Parce que si la première économie du monde ne repart pas, on va prendre un seul exemple. Air France ne sait pas quand est-ce qu'il reprend ses vols vers les États-Unis. Je peux vous dire qu'on ne fait pas vivre longtemps Air France si vous ne faites pas des Paris-New York.
Évidemment.
Donc, elle a raison sur le fait que on ne peut pas dire le pire de la crise est passé. Le choc est passé. Mais je peux dire que là encore, je suis désolé de citer mon unique source, mon ministre de premier plan avec qui j'ai déjeuné cette semaine. Mais il me disait, on sous-estime la dureté de la crise qui est face à nous.
On sera en Floride justement à 19h dans le journal pour revenir sur certaines interdictions. Frédéric Dabi, Michel.
Oui, alors on sous-estime, oui, mais les Français en ont conscience. On n'est pas sur le schéma de 2008 où la crise avait été très peu visible. Il y avait 48 heures de stress sur la garantie des dépôts que l'Europe, avec Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, avait pu, rassurer. Le chômage avait augmenté, mais beaucoup plus tard, parce qu'en France, on sait que les crises arrivent d'habitude plus tard que dans les autres pays. En 1929, elle est arrivée en 1932. Là, les Français en ont conscience et ils voient. Vous parliez de l'image du tremblement de terre, des répliques quotidiennes. 1000 emplois chez Sanofi, un président de groupe qui fait « on va essayer d'éviter les 1000 suppressions ». Et là, on voit très bien que ça peut créer des tensions sociales et une situation explosive.
Tout le monde s'y attend.
La situation qui est la plus compliquée, c'est qu'à chaque déjeuner de famille ou dîner de famille, vous aurez quelqu'un qui va potentiellement faire son
pas. Et ça, c'est la pire des actions. On s'attend au chômage des jeunes, donc c'est pour ça que le gouvernement futur aura à gérer le problème des jeunes.
Ça va être avant les annonces d'une mesure la semaine prochaine pour l'embauche des jeunes.
Et puis, on voit bien que si les plans sociaux ne sont pas encore faits, et ils le seront dès que le chômage partira.
Bien sûr. L'automne va être...
Donc, il va y avoir un gros combat.
Il va y avoir une accélération
qui va être folle.
Un gros
combat autour du chômage partiel.
J'ai juste le temps de finir ou vous voulez qu'on s'arrête je vois
là,
lever
votre
les bras. Juste fini ma phrase.
Deux,
il va y avoir une accélération folle puisque la nouvelle formule du chômage partiel entre en vigueur le 1er octobre. Ouais. Ils ont jusqu'au 1er octobre pour signer un accord. Je vous explique pas comme du coup, début septembre, vous allez avoir une pelletée de...
Et Laurent Berger a déjà pris le départ.
Merci beaucoup les grandes voix du vendredi. Merci à vous trois.
Europe 1. Dans un instant, Nathalie Lévy.
C'est un journal complet, Lionel Gougelot. On sera donc en Floride avec cette nouvelle interdiction. Et puis juste après, c'est retour sur les municipales avec Nicolas Bay, mon invité.
Europe 1.